Nous avons un Dieu qui est capable de donner la vie au travers de sa parole. La Bible nous dit que cette parole, elle est vivante. Elle est vivante, elle est puissante. Ce matin, encore par la foi, nous pouvons nous attendre à notre Dieu. Je suis chargé d'un lourd fardeau ce matin. Vous savez c'est lequel? C'est parce que la semaine dernière, j'étais pas là. Et j'ai récolté tous les bonjours et les salutations des frères et sœurs de l'église de Toulouse des Minimes. Et il y avait plus de 500 personnes au culte. Il y a une belle œuvre de Dieu qui se fait dans cette église. On était vraiment contents de pouvoir partager cette journée avec mon épouse et les enfants là-bas. On a porté la parole le matin, l'après-midi également, au moment des baptêmes. 5 personnes se sont données au Seigneur et engagées à le suivre au travers des baptêmes. Il y avait que des femmes cet après-midi-là pour s'engager. Où sont les hommes? Mais je pense que c'était juste une fois comme ça. En tout cas, une belle œuvre de Dieu qui se fait à Toulouse, dans cette église et dans d'autres églises aussi. Et je suis vraiment content de pouvoir vous transmettre ces salutations. Et ne vous inquiétez pas, je leur ai fait la même chose là-bas. Je leur ai dit que vous les saluez. Et c'est tellement bien quand on prie les uns pour les autres. Peut-être qu'on ne se connaît pas. Mardi, lors de du rassemblement régional, c'est l'occasion aussi de rencontrer les uns et les autres. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des églises qui prient pour nous. Et je peux vous dire, les pasteurs et plusieurs personnes de l'église ont dit, on prie pour l'église de Moissac. On a à cœur cette église. On veut que l'œuvre de Dieu avance là-bas aussi, dans le Tarn-et-Garonne. Nous, on est dans la grande ville. Nous, on est là où il y a beaucoup de monde. Mais on croit que même dans la campagne, le Seigneur, il est à l'œuvre et il va bénir. Alors que le nom du Seigneur soit loué pour tout cela. Vous savez que nous sommes dans une thématique depuis il y a 2 semaines en arrière. On a commencé avec cette notion que nous devons avoir une foi équilibrée. On a vu tellement et tellement de gens qui étaient déséquilibrés dans leur foi et le Seigneur nous appelle. Et je crois que c'est un cri qui est pressant encore en 2018, plus intensément que les autres années encore, que nous puissions avoir une foi équilibrée. Quand on étudie l'étymologie du mot, l'équilibre, ça nous parle de cette image de la balance, avec les poids égaux de chaque côté. Et c'est vrai que si on vient dans les définitions, vous ouvrez Monsieur Robert, il va vous dire tout ça. L'équilibre, c'est un état de repos, position stable, système obtenu par l'égalité de deux forces. Des fois, il y en a qui sont trop quelque chose et ils ont besoin d'avoir de l'équilibre en apprenant à être un peu dans l'autre extrême. Et on a tellement et tellement de sujets dans lesquels on pourrait avancer ce matin. Mais j'ai choisi de parcourir tout simplement les vertus que Dieu nous donne au travers du fruit de l'esprit. La semaine dernière, on a vu que l'amour, déjà, c'était peut-être le moyen d'avoir l'équilibre parfait. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Celui qui aime son prochain comme soi-même. La Bible nous dit qu'il a accompli toute la loi. Il accomplit tous les commandements que Dieu nous donne. C'est merveilleux de savoir qu'un seul commandement suffit pour pouvoir résumer tout le reste. Mais on va rentrer un peu plus dans les détails. On pourrait lire déjà ce premier texte dans Romains, au chapitre 12 et au verset 15, qui nous montre justement le deuxième fruit de l'esprit, enfin la suite plutôt du fruit de l'esprit, c'est toujours le même, mais plusieurs déclinaisons. La deuxième déclinaison après l'amour, c'est la joie. Qu'est-ce qu'il faut équilibrer? Avec quoi il faut équilibrer la joie du chrétien, à votre avis? Bon, c'est pas difficile, hein? La joie d'un côté et... Alors, l'amour. L'amour, ça entraîne la joie, mais c'est pas ça. La paix, non. La tristesse. Alors, on va y venir. Moi, j'ai dit ça, les pleurs. C'est quasiment ça. On voit qu'il connaît bien sa parole. Romains, chapitre 12, verset 15. Vous connaissez ce texte. Il est dit ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec qui? Avec ceux qui pleurent. Et on voit que c'est un commandement, enfin une exhortation plutôt que l'apôtre Paul donne aux Romains, mais qui est parfaitement équilibré parce que ça nous montre qu'il y a des moments où on a le droit de se réjouir, on a le droit d'être heureux, on a le droit de chanter des chants et de se mettre debout et de frapper des mains, de manifester notre joie, mais il y a des moments aussi où il faut savoir pleurer avec ceux qui pleurent. Et ce n'est pas de choses qui sont contradictoires, ce sont des choses qui amènent de l'équilibre dans notre foi. Il y a un autre verset que vous connaissez dans l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Ça veut dire donc qu'il y a des temps, il y a des moments, il y a des instants où il faut savoir discerner À quel moment il faut que je ris, à quel moment il faut que je pleure. Une foi équilibrée connaît cette réalité-là. Une foi équilibrée sait qu'il y a des moments où il faut pleurer, et il y a des moments où il faut rire. Quand on voit quelqu'un qui ne fait que rire, des fois c'est intéressant quand on est à deux repas, on a quelqu'un qui est un petit peu un bout en train et qui anime le repas. Vous connaissez des gens comme ça? Et c'est bien d'avoir de telles personnes, parce que si vous m'invitez à moi, vous allez vous ennuyer un petit peu. Sauf si on va rentrer dans les détails de la parole, là, ça va être passionnant. Mais sinon, je suis pas forcément un bout en train. Mais j'ai rencontré parfois des personnes qui étaient vraiment des grands bouts en train. Ils sortaient des blagues à chaque minute. Et puis, quand on analyse leur vie, on se rend compte que finalement, ils veulent donner une apparence de joie, une apparence que tout va bien dans leur vie. Et quand ils se retrouvent seuls à la maison, ils sont les personnes les plus malheureuses du monde. Et qui font tous leurs efforts pour attirer l'attention quand il y a du monde, pour pas montrer qu'au fond de leur cœur, ils sont malheureux et tristes. Vous savez, ces personnes qui rigolent tout le temps. Quel que soit le sujet, ils sont là, ils rigolent toujours. Mais on se rend compte que derrière, c'est pas solide. C'est pas ça que la Bible nous appelle à vivre. On a le droit d'être heureux, on a le droit d'avoir des moments comme ça de joie, de réjouissance, mais il faut savoir être équilibré. Et le fait de rire toujours, ce n'est pas l'équilibre. Le fait de pleurer toujours, c'est pareil. Je me souviens d'un monsieur qui venait tous les dimanches et qui à chaque fois qu'il priait, il pleurait, il se repentait, il demandait pardon. Et le dimanche d'après, c'était la même chose, la même prière exactement. Des larmes qui coulaient, mais ça ne servait à rien. Et ça, c'est pas les pleurs que Dieu demande. Il y a une histoire qui est racontée aussi, qu'un homme, tous les dimanches matin, il répétait « Seigneur », en pleurant, il répétait « Seigneur, viens enlever les toiles d'araignée de mon cœur !»« Seigneur, viens enlever les toiles d'araignée de mon cœur !» Et puis, un dimanche matin, le pasteur, il n'en pouvait plus. Il était agacé. Alors, il s'est levé, il a coupé la parole pendant que le monsieur, il pleurait « Seigneur, viens enlever les toiles d'araignée !» Il s'est levé, il a dit « Seigneur, viens tuer l'araignée !» Qu'on n'en parle plus. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut que les pleurs ils servent à quelque chose. Alors il y a des temps de deuil, il y a des temps de difficulté, il y a des temps de souffrance, et là c'est normal qu'il y ait le pleur, c'est là tout cela qui ressort et qui doit sortir et qui doit s'exprimer. Mais à un moment donné, il y a aussi le temps de guérison, de restauration et de grâce que le Seigneur nous donne. Paul écrit une lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens. La première, c'était une lettre assez sévère pour les reprendre dans toutes sortes de choses. Ils avaient beau avoir tous les dons, ils avaient beau avoir des prophéties, des interprétations, de belles choses qui se passaient dans l'Église. Il y avait aussi des choses qui n'étaient pas trop terribles. Un monsieur qui était en train d'être avec la femme de son père. Donc pour vous dire vraiment que ça allait loin. Et Paul a donc écrit une lettre assez costaud. Et puis, il leur écrit dans le 2 Corinthiens en disant, mais voilà, cela vous a attristé, mais moi aussi, au début, ça m'a attristé, mais finalement, je m'en réjouis parce que vous avez bien réagi. Il dit, en effet, la tristesse, selon Dieu, ça produit une repentance qui mène au salut et qu'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a une tristesse, selon Dieu, qui produit du fruit, qui amène quelque chose de bon. Et puis, il y a une tristesse qui sert à rien, pour dire les choses simplement. Que notre tristesse, que nos larmes, que nos pleurs puissent être utiles, puissent amener une grâce, une bénédiction. Je me souviens dans une église dans laquelle je suis passé, cette histoire qu'une dame m'avait racontée, alors que son mari avait fait une tentative de suicide à cause d'une maladie. C'était pas vraiment, il n'était pas tout à fait lui-même quand il a pris tous les médicaments, mais il a donc pris tout un truc de médicaments, et puis je sais plus, une vingtaine de comprimés qui a fait qu'il est parti à l'hôpital. On l'a d'abord retrouvé inconscient. Grâce au Seigneur, la personne qui était à côté de lui, son voisin, c'était quelqu'un qui travaillait aux urgences. Donc quand il est rentré de son boulot, il a vu le monsieur par terre, il l'a ramené vite fait aux urgences. Et ils ont appelé la dame, ils ont dit « Voilà, votre mari, il est prêt de partir. » Et cette femme, elle était là tellement dans la souffrance, tellement dans la peine, qu'elle n'arrivait même pas à prier. Elle est tombée à genoux, elle m'a dit « Je suis tombée à genoux, j'ai pleuré. » Et c'est tout ce que j'ai pu faire. J'ai même pas réussi à sortir un mot. Mais j'ai pleuré devant Dieu. Et alors qu'elle a pleuré devant Dieu, quelques minutes après, on l'appelle, on lui dit, on sait pas ce qui s'est passé, mais votre mari va mieux. Il était prêt de partir, et puis là, et ça s'est stabilisé, maintenant, vous pouvez venir le visiter. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu entend la prière de nos larmes. C'est aussi simple que ça. Il y a des fois, on ne sait pas formuler, on est trop accablé sous la pression, sous le poids des fardeaux, Mais Dieu, il entend la prière de nos larmes, même quand on est dans les pleurs et qu'on a notre âme tournée vers lui. Dieu, il décrypte tout cela et il est capable d'exaucer. Et je peux vous dire que par la suite, cet homme, il a été totalement rétabli par la grâce de Dieu. Mais nos tristesses et nos larmes sont normales parce que nous sommes des êtres humains, mais doivent être efficaces, doivent produire quelque chose. Et comme parfois, on voit les extrêmes encore, on voit des personnes qui ne pleurent jamais. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis un homme, moi, je suis un guerrier, je suis un dur, je pleure pas. » Vous en connaissez des comme ça? Est-ce que jamais pleurer, c'est une preuve de force? Je peux vous dire que jamais pleurer, c'est une preuve d'insensibilité. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, des grands hommes de Dieu qui ont fait des choses incroyables, qui ont été missionnés par Dieu pour bénir des nations entières, on les trouve en train de pleurer à un certain moment. J'ai fait un petit peu un listing, mais Joseph qui était à ce moment-là premier ministre du pays d'Égypte, qui a béni des nations tout entières qui étaient dans la famine. Joseph, quand il a vu ses frères, alors qu'ils avaient voulu le tuer, quand il les a revus, il leur a pas crié dessus, il a pleuré. Il les a serrés dans ses bras. Est-ce que c'est la force ou est-ce que c'est la faiblesse? Je crois que c'est la force de l'âme, ça. David, quand il apprend qu'on a tué un guerrier, un Abner, un chef d'une armée qu'il appréciait, la Bible nous dit qu'il s'est mis à pleurer. Le roi David, qui avait été capable de tuer le géant Goliath, qui était un guerrier puissant, il était aussi capable, certaines fois, de verser des larmes. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Le prophète Élisée, qui accomplit tant et tant de miracles, il est dit qu'il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a vu Hazaël, c'était le futur roi de Syrie, et tout le mal qu'il allait faire. Quand il a compris tout le mal que cet homme allait faire, il s'est mis à pleurer. Et on pourrait, sans chercher trop loin, parler de Jésus. Est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui représente Dieu, et Dieu dans toute sa puissance, sa plénitude, sa grandeur, sa perfection, Jésus, à un certain moment, il a dit qu'il a pleuré. Il a pleuré devant Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Il a pleuré à ce moment-là. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare, alors que tout le monde était en train de douter que quelque chose pouvait se passer, mais que lui savait pertinemment qu'il allait ressusciter. Mais voyant les larmes des gens qui étaient autour de lui, il a pleuré le Seigneur. Les pleurs, ce n'est pas une marque de faiblesse. C'est une marque de sensibilité. Quand ils se sentent une tristesse selon Dieu, bien sûr. Et il faut savoir qu'une foi équilibrée, elle sait pleurer quand les circonstances l'exigent. Et les gens qui disent « Moi, je ne pleure jamais. Moi, je ne veux pas montrer que je suis faible. » Mais faites attention, parce que ce n'est pas équilibré. Des fois même, ça peut rassurer quelqu'un de montrer qu'on est touché. Je peux vous dire que moi, quand j'ai perdu mes deux grands-mères, on ne pouvait pas m'arrêter. Je ne m'appelais pas Fontaine pour rien. Parce que ça coulait tout seul, hein. Mais parce qu'il y a une émotion, la séparation des personnes qu'on aime. Même si on sait qu'elles sont sauvées, j'ai la grâce que mes deux grand-mères étaient sauvées au Seigneur, qu'elles ont servi toute leur vie. Mais bon, c'est dur quand on perd quelqu'un qu'on aime. Et on a le droit de pleurer. Et on a le droit de pleurer aussi avec ceux qui pleurent. On a le droit d'être touché quand on voit des gens autour de nous qui vont vers l'enfer et qui ne s'en rendent pas compte, et de pleurer devant Dieu. Moi, je peux vous dire, ça m'arrive pas souvent de pleurer quand même, mais les fois où ça m'arrive, le plus souvent, c'est devant le Seigneur, en priant, ou en chantant un cantique qui vraiment me saisit. Dans la présence de Dieu, je verse des larmes. Et Dieu, il entend la prière de nos larmes. Il y a un temps pour pleurer, je dirais aussi qu'il y a un thème. Il y a des thèmes pour pleurer ou pour rire. C'est-à-dire qu'il y a des domaines. On a une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui avec les médias, les infos et tout ça. On peut rire de tout. Vous avez déjà entendu ça? Et sous prétexte qu'avec la liberté d'expression, on peut se moquer de tout, de tout le monde, n'importe comment, sans aucun respect. Est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu? Allez dire, je prends un exemple simple, un exemple difficile de l'actualité. Allez dire à la famille de la petite Angélique qu'on peut rire de tout, qu'on peut rire de son enlèvement, de son viol, de son meurtre. Allez lui dire ça. Ça paraît évident que c'est n'importe quoi, vous êtes d'accord? Il y a des sujets sur lesquels on ne va pas rigoler. Et là, je prends un exemple seulement de l'actualité, c'est même pas de la foi. Mais il y a des thèmes qui sont quand même touchants. Et quand on voit une actualité comme ça, ben, ça donne envie de pleurer sur la méchanceté des hommes et sur la compassion aussi, le fait qu'on veut associer, être solidaire avec la famille. Mais la Bible nous dit très bien qu'il faut pas rire de tout, mais qu'il y a des thèmes de grande joie. Il y a aussi des thèmes de grande pleurs, de grande tristesse. À un moment donné, Jacques, l'apôtre Jacques, va demander à certaines personnes qui rient de changer leur rire en larmes. On lit ça dans Jacques au chapitre 4 et au verset 9. Je vous le lis rapidement, hein, c'est un simple verset. Mais il dit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » C'est des paroles dures, hein. Que votre joie, il y a des gens qui sont joyeux, il y a des gens qui sont dans le rire. Non, mais il leur dit, c'est pas le moment de rire, là, c'est le moment de pleurer. Pourquoi il leur dit ça? Ben, il suffit de lire le contexte avant. Et il parle à des pécheurs. Des gens qui ont le cœur impur, le cœur souillé et qui rient. C'est pas le moment de rire. Quand on est dans le péché, c'est pas le moment de rire, je peux vous le dire. Des gens qui sont dans le cœur partagé, le cœur indécis, qui connaissent ce qu'il faut faire, qui entendent le dimanche matin ce qui est bien, mais qui le reste de la semaine vivent autre chose. Jacques, il dit, mais ne vous réjouissez pas, changez. C'est pas parce que vous avez entendu la parole le dimanche matin que ça suffit. Il faut avoir l'assurance dans le cœur. Une fermeté de la foi qui permet d'être dans cette assurance. Devant l'éternité, en enfer, devant la perdition éternelle, ne rions pas. Ce sont des choses trop importantes. C'est peut-être le sujet le plus important de toute la terre. Et on ferait mieux de pleurer sur notre péché. La Bible est claire, elle nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut rire? Ben, c'est quand même grave. L'éternité, séparer la présence de Dieu, c'est pas quelque chose qui donne envie. Jésus a parlé même de ce temps-là où il y a certains qui auront des pleurs et des grincements de dents. Ce sont pas des choses qui nous font sourire, ce sont des choses qui nous touchent et qui doivent, nous qui sommes déjà sauvés, nous donner envie d'avoir cette passion des âmes, cette intercession qui devant Dieu pleure, qui devant Dieu gémit, qui devant Dieu vraiment prie de tout son cœur pour que de plus en plus de personnes puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Il y a des larmes qui amènent une bénédiction. Et la personne qui est pécheur et qui se repent devant Dieu et qui verse des larmes et qui demande pardon va obtenir une joie éternelle. Mais il y a aussi de grandes réjouissances. Est-ce que vous savez que la Bible nous parle de quelque chose que peut faire une personne sur la terre et qui déclenche une joie plus grande que celle des Marseillais cette semaine? Il y en a qui ont suivi l'actualité sportive. Moi, je suis d'Aix-en-Provence, donc j'ai toujours soutenu Marseille, surtout quand ils gagnent. Et cette semaine, un résultat incroyable pour ceux qui ont suivi l'actualité. Il y a un match, ils perdaient 2-0 dans le match et la finale était finie pour eux. Et puis à la dernière seconde de la prolongation, je crois, ils ont marqué le but qui a permis qu'avec le match aller, le score global a fait qu'ils étaient en finale. Et je peux vous dire, quand à Marseille, ils gagnent l'OM, ben ça résonne partout. Les klaxons, les cris, les gens qui sont dehors. Quand on a eu la Coupe du Monde, je me souviens en 98, que j'étais à Marseille en train de la regarder, c'était l'explosion partout. Mais ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Même alors que je suis sorti à Castel dans la soirée, j'entendais même les cris des Marseillais tellement ils criaient fort. Vous savez, l'exagération marseillaise. Mais ça, c'est rien du tout comparé à la joie qui est dans le ciel. Pourquoi? Pour un seul pécheur qui se repent. Un pécheur qui se repent sur la terre, qui verse des larmes, qui dit « Seigneur, je te demande pardon », ça déclenche une joie incroyable. Les anges, les chérubins, les archanges, Dieu lui-même, son trône, Jésus, tout le monde. Il y a une fête qui se manifeste au moment où une seule personne sur la terre demande pardon pour son péché. C'est pas merveilleux ça? Et ce qui est merveilleux, c'est que le ciel est tellement rempli qu'à un moment donné, ça descend dans notre cœur. Et la personne qui vit cette réalité, elle reçoit après cette joie qui vient du ciel. C'est pas une joie qui est éphémère, c'est pas une joie qui dépend des circonstances, c'est une joie qui est éternelle, c'est la joie qui vient du ciel. Et une dame me racontait, je me souvenais de ce moment-là, alors qu'elle venait à l'église depuis peu, que des gens se moquaient d'elle. alors qu'elle disait qu'elle venait à l'église. Vous savez, quand aujourd'hui on dit qu'on va à l'église, les gens ils comprennent pas forcément, hein, et ils peuvent sortir toutes sortes de choses. Et cette dame, donc, ça l'a gênée parce qu'elle savait pas, elle avait pas l'habitude qu'on se moque d'elle. Du coup, elle préférait faire comme son mari lui avait dit de faire depuis toujours. Son mari, il avait ses principes. Tout le monde ment, donc toi aussi tu peux mentir. Des fois, ça te sort des problèmes. Et donc, elle s'est dit, ben, je vais faire comme ça. Allez, je vais mentir. Quand on me dit, tu es allé à l'église? Non, non, je suis allé au marché, je suis allé faire ceci ou cela. Et puis, du coup, elle était tranquille. Les gens n'embêtaient plus parce qu'elle mentait. Elle était dans une espèce de joie. Vous comprenez cette joie-là qui fait qu'on est satisfait parce qu'on est tranquille. Et puis, elle est venue me voir, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, voilà, en fait, j'ai dû mentir à ces personnes. Je ne sais plus comment on a parlé de ça. Et elle me l'a dit, mais moi, je lui ai dit, mais madame, vous avez menti. Et devant Dieu, même si les gens vous embêtent, mais devant Dieu, c'est pas bien de mentir. Et même si vous êtes un petit peu contente parce que ça a résolu votre problème à l'instant T, vous pouvez pas avoir la paix de Dieu. Et donc elle est partie comme ça, elle a vraiment bien pris tout ce que je lui ai dit. Et le lendemain, je l'ai revue et elle m'a dit, je comprends pas ce qui s'est passé, mais pendant toute la nuit, j'ai pas réussi à dormir, à fermer l'œil. Jusqu'à ce que je demande pardon parce que j'avais menti. Est-ce que c'est normal? Et je lui ai dit, mais c'est le Saint-Esprit qui agit dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc que ce que vous avez fait, c'est pas bon. Et cette dame a dit, mais à partir d'aujourd'hui, je refuse de laisser le mensonge me dominer. Et elle m'a dit, dès l'instant où j'ai demandé pardon, ben, j'ai eu une joie beaucoup plus grande que la joie que j'avais eue quand j'avais menti. Une joie qui était celle de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu qui a envahi mon cœur. Et je peux vous dire encore une fois qu'aujourd'hui, cette dame, elle est restée dans cette vraie joie, dans cet épanouissement. Quand on prend position par rapport au mensonge, quand on prend position par rapport au monde et qu'on dit que je crois en un Dieu qui est puissant, eh bien, le Seigneur nous manifeste sa faveur dans notre cœur et dans notre vie. La jouissance du péché, elle est courte, mais la joie du Saint-Esprit, elle demeure à jamais. Amen. C'est pas un verset, mais ça pourrait presque... Ça ressemble à un verset. Mais c'est quelque chose qui résume bien cette pensée-là. En tout cas, soyons sérieux avec ceux qui le méritent. Pleurons les moments où il y a besoin qu'on pleure. Et laissons-nous toucher par ceux qui réjouissent le cœur de Dieu. Et alors notre foi sera équilibrée. On va pas parler que des rires et que des larmes. Je voudrais aussi parler de la paix. Avec quoi on peut équilibrer la paix? Parce que Dieu nous a promis de nous donner la paix. On est d'accord? Alors, avec quoi? La paix parfaite, oui. Et avec quoi est-ce que Dieu nous permet d'équilibrer la paix parfaite? Alors, l'opposé de la paix. L'opposition, le combat, exactement. Le prophète Michée parle à un moment donné de certains faux prophètes. Il dit, ils égarent mon peuple. Ils annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Et ils publient la guerre s'ils n'ont rien qu'on leur met dans la bouche. Ça veut dire que la paix et la guerre, ça dépendait simplement de leur estomac. Mais c'est pas ça, hein. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et la paix et la guerre n'ont rien à voir avec la nourriture. Il y a par contre une paix éternelle, une paix parfaite, un repos de la foi. Et le déséquilibre de la paix, c'est de se dire « je suis tellement dans le repos que je m'endors ». Comme les vierges folles qui se sont endormies en sans veiller si elles avaient de la réserve. Elles étaient dans le repos, mais elles n'étaient pas prêtes au moment du retour de l'époux. Et vous savez combien c'est dangereux de s'endormir d'un point de vue spirituel, demander à Eutychus, alors qu'il était dans un contexte tellement bien, l'apôtre Paul qui était en train de prêcher quelque chose d'incroyable, une belle prédication, toutes sortes de points, des images. L'apôtre Paul, on sait qu'il était doué pour ça, et il était en train d'annoncer ce discours. Alors c'est sûr que ça tardait un petit peu, c'était un peu long pour Eutychus. Ce qu'il a choisi, il était dans un bon contexte. Oh là, avec les frères et sœurs, c'est merveilleux. Ah, je me détends, je suis bien là. Et puis, il a commencé à s'envoler vers des sphères tellement spirituelles qu'en fait, il était en train de s'endormir. Le problème, c'est qu'il était assis au bord de la fenêtre. Et le sommeil, même si on est dans un contexte spirituel mais qu'on s'endort, ça peut être dangereux. Parce qu'il est tombé, il s'est tué. Heureusement, l'apôtre Paul est venu prier et Dieu l'a ressuscité, cet homme. Mais ça nous montre que c'est un danger que d'être tellement dans le repos qu'on s'endort de manière spirituelle. Ça, c'est pas le repos de Dieu. Quand on voit le repos de Dieu, on se rend compte que Dieu, il a fait 6 jours le ciel et la terre, j'y arrive. En 6 jours, il a créé tout l'univers. Il est dit que le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il fait rien, le Seigneur? Qu'il est dans son ciel, qui croise les bras et qui dit « Maintenant les hommes, vous vous débrouillez ?» Et on sait que c'est pas du tout ça. Et que dès l'instant où une personne sur la terre est en train de crier, de prier, d'avoir le cœur brisé, le Seigneur, il intervient, il agit. Le repos que Dieu est en train de faire, c'est un repos de la grâce où il agit envers l'humanité. Mais il est plus en train de créer quelque chose. Il est en train de bénir et de faire tourner la boutique, si vous voulez. C'est ce repos-là. Et le Seigneur nous invite à être dans le repos de la foi. Mais le repos de la foi, la paix, nous amène forcément, systématiquement, à nous mettre à l'œuvre, à nous mettre en guerre, dans le bon sens du terme, de manière spirituelle. La paix que je ressens, c'est la question qu'il faut se poser. La paix que je ressens, est-ce que c'est la paix de Dieu? Ou est-ce que c'est la paix du diable? Vous allez dire, quoi la paix du diable? Ça n'existe pas, ça. Si, ça existe. La paix du diable, c'est quand on n'embête pas le diable. On ne fait rien qui le dérange. On vit dans le péché, mais on ne résout rien. Du coup, le diable, il est content. Vous savez pourquoi? Son but, c'est de nous détruire. Et comme il sait qu'on est dans le péché, mais le péché est en train de nous détruire à petit feu. Donc, il est content, il va nous laisser tranquille. Si on règle le problème du péché, alors, et on va être dans la sainteté de Dieu, alors on va être dans la volonté de Dieu, et ça, il n'y a rien de pire qui l'énerve de voir quelqu'un qui refuse d'être dans le péché et qui veut marcher dans les voies de Dieu. Alors, il va s'acharner. J'ai vu combien de fois des personnes qui se sont faites baptiser, et dans les semaines et les mois qui ont suivi, qui ont été vraiment dans des épreuves, dans des difficultés. Pourquoi? Mais parce qu'au moment du baptême, ils ont confessé le nom de Jésus. Et il n'y a rien de plus qui énerve le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas que je confesse le nom de Jésus le jour de mon baptême, sinon il m'arrive des malheurs? Non. Mais si je suis avec Jésus, je crains rien. L'ennemi, il est défait. L'ennemi, il a perdu. Déjà. Et c'est pour ça qu'il est énervé. Mais il va essayer de faire son maximum pour nous embêter. Mais avec la foi, on n'a rien et rien à craindre. Et j'ai vu des personnes qui ont tenu bon par la foi, qui sont restées fidèles et qui sont passées au travers comme si de rien n'était. J'en ai vu d'autres qui se sont laissés ébranler, qui sont repartis en arrière. Parce qu'ils n'ont pas compris cette étape-là. Mais regardez l'exemple biblique, et c'est à chaque fois que je te fais des instructions au baptême, je le dis, regardez Jésus, il vient de se faire baptiser, dans la seconde qui suit, le Saint-Esprit lui dit, va dans le désert et tu vas être éprouvé. 40 jours de jeûne et prière, et en plus le diable à la fin vient l'embêter. S'il l'a fait pour Jésus, est-ce qu'il ne va pas le faire pour nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais est-ce que Jésus s'est laissé démonter? Jésus a été ferme. Il a toujours ramené la parole. Il n'a pas fait par sa propre force. Il a dit, il est écrit. Il s'est protégé par la parole. Et le diable l'a laissé tranquille. Samson, il était dans le repos sur les genoux de Dalila. Elle était en train de lui masser, faire un massage dans ses longs cheveux. On imagine la scène. Et il avait l'air de se sentir bien là. Il s'est endormi même. Mais vous savez ce qui s'est passé pour Samson? Les ennemis sont arrivés, lui ont coupé les cheveux. Il a eu la tête rasée, mais surtout ils ont crevé ses yeux et ils l'ont mis dans une prison. Et il a perdu l'onction de Dieu. Il était dans la paix, mais pas avec la bonne personne. Et le résultat, ça a été catastrophique pour Samson. Et je pense à un homme, l'apôtre Pierre, qui lui, il était dans le repos de la foi. Alors qu'il était en prison, enchaîné, il y avait 2 soldats à côté de lui pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Il était là en prison et vous savez ce qu'il faisait? Il ne s'inquiétait pas. Il râlait pas, il murmurait pas. Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il chantait même pas, il dormait. Il dormait profondément, à tel point que quand l'ange il est arrivé, l'ange il était obligé de lui donner des coups de pied pour le réveiller. Parce qu'il était tellement dans ce repos de la foi, il avait confiance, il était en prison, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai un Dieu qui est là, qui est puissant. S'il veut me délivrer, il va le faire. S'il veut que je finisse ma vie comme ça, c'est pas grave. Pierre, il avait une assurance incroyable. Il était tellement dans le repos de la foi que même réveillé, il avait l'impression d'être dans un rêve. Relisez acte 12 et vous verrez que c'est seulement à la fin quand l'ange l'a quitté, qu'il était dehors, qu'ils ont passé tous les postes de la prison, toutes les portes qui se sont ouvertes d'elles-mêmes. C'est seulement quand il était dehors qu'il a compris que c'était la réalité qu'il vivait, c'était pas une vision. Pourquoi? Parce qu'il était dans le repos de la foi. On a besoin d'avoir ce repos-là, quelles que soient les circonstances. Est-ce que franchement, les prisons de l'époque, je ne parle pas des prisons d'aujourd'hui qui sont high-tech, hyper modernes, 5 étoiles, mais les prisons de l'époque, est-ce que c'était le meilleur endroit pour dormir? Avec les rats qu'il devait y avoir, avec le confort, c'était pas le meilleur endroit. Mais il y avait tellement une foi dans son Seigneur, dans son Sauveur, que Pierre s'est endormi paisiblement, comme un bébé, contre le ventre de sa maman. Il y a un repos de la foi. La Bible nous dit que ça commence avec la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, les larmes de repentance amènent cette paix. Mais il y a une suite. Une fois qu'on a la paix avec Dieu, il faut qu'on ait en nous la paix de Dieu. Il faut que notre cœur vive cette réalité de la paix surnaturelle de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix parfaite, comme disait Eddie. C'est cette paix-là que Dieu veut nous donner. Une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, Dieu veut remplir notre cœur de cette paix. Comment ça se passe? Juste avant, il est dit, ben c'est simple, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître, transformez votre inquiétude, votre souci en une prière, et la paix de Dieu va venir sur votre vie. Si vous êtes dans l'inquiétude, ben faites-le, et efforcez-vous. C'est un combat contre notre chair, c'est un combat contre nous-mêmes. C'est simple, mais si nous voulons avoir la paix de Dieu, il faut qu'on soit en guerre avec l'inquiétude. Si nous voulons que le Dieu de paix règne sur nous, il faut que nous mettions en pratique sa parole. Juste après, il est dit, Paul le dit, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, entendu de moi, pratiquez-le. Et alors le Dieu de paix sera avec vous. C'est bien la paix de Dieu, mais c'est encore mieux le Dieu de paix. C'est la personne de notre Seigneur qui vient habiter en nous et qui nous donne, communique une force nouvelle. D'ailleurs, il est dit dans Hébreux 13:20 que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Si je ne suis pas en paix, alors les œuvres que je vais faire ne servent à rien. Ça peut être des bonnes œuvres d'un point de vue humain, mais d'un point de vue spirituel, ça ne vaut rien. Il y a des gens qui font de très bonnes œuvres, et on est admiratif même, mais ça nous donne des leçons à nous. Mais ce sont des œuvres humaines. Mais si on a la paix de Dieu et le Dieu de paix avec nous, il nous rend capable pour toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté. Une dame priait pour sa maman mourante, qui était catholique non pratiquante. Et c'est une dame que j'ai rencontrée la semaine dernière à l'église, et elle me racontait ça, je ne la connaissais pas du tout, mais elle a vraiment tenu à me donner ce témoignage. Elle demandait au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux convaincre le cœur de ma maman? Elle est gravement malade, Seigneur, tu le vois, mais comment est-ce que je peux lui parler pour lui faire comprendre qu'elle a besoin de faire la paix avec toi ?» Et donc, elle était là dans l'inquiétude, elle recherchait des arguments, mais dans son cœur, il y avait un verset qui revenait tout le temps, mais elle était tellement en train de réfléchir qu'elle se rendait pas compte de ce verset. C'était le verset tout simple, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset revenait, mais elle était tellement préoccupée en cherchant des arguments, des positions philosophiques, en fait, toutes sortes de choses, elle écoutait pas ce que Dieu lui disait. À un moment donné, elle allume la radio dans sa voiture. Le monsieur qui est en train de parler, il est en train de dire « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et là, elle est stoppée net. Elle dit « Mon Seigneur, j'ai compris que tu veux que je te donne ce verset ». Et elle s'arrête. Elle prend un temps devant Dieu. Elle a les tourbillons de pensées qui sont là, mais elle dit « Seigneur, je refuse maintenant de me laisser emporter par mes pensées. Je veux que ça soit ta paix qui me dirige. Je veux, Seigneur, me recharger auprès de toi et pouvoir déverser ta présence sur ma maman qui est en train de mourir. » Alors elle va voir sa maman et puis elle lui dit, « Maman, tu sais, je voudrais te lire un verset. » Et elle lit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, etc. » Et la maman, elle répond, « Mais oui, en fait, je le connais. » Elle est catholique, donc elle avait déjà entendu ce verset quelque part. Et puis ça s'arrête là. Donc elle s'en va, elle passe la nuit chez elle pour se reposer, elle revient. Puis, en allant vers sa maman, la dame me disait, l'infirmière l'a interpellée, elle lui a dit, « Mais madame, cette nuit, on a cru qu'il y avait l'enfer, qu'il y avait les flammes, que votre maman, elle était en train de brûler. »« Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le feu ?»« Non, 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 mais toute la nuit, votre maman, elle a crié, « au secours, je suis brûle, au secours, je brûle !» Et quand on allait la voir, il n'y avait rien dans la chambre. Et la dame, elle a compris que, alors, grâce au verset qu'elle avait lu, verset qu'elle connaissait en plus déjà, cette dame s'est rendue compte de l'enfer qui était à ses portes. parce qu'elle n'avait pas fait la paix avec Dieu. Elle avait une religion, mais elle n'avait jamais fait la paix avec Jésus. Et cette nuit-là, elle a vu, c'est comme si elle voyait l'enfer qui était à sa porte et qui lui montrait qu'elle était en train de brûler pour l'éternité. Et quand elle allait la voir sa maman a accepté à ce moment-là de demander pardon pour ses péchés et de faire la paix avec Dieu. C'est quoi la morale de cette histoire ? La morale, c'est que parfois on essaye par nos propres forces de combattre et de s'en sortir, de trouver des façons de faire, mais on n'arrivera jamais à remporter le combat, à faire la guerre à l'ennemi, si on n'est pas d'abord en paix. Cette dame, elle a pris du temps pour que la paix de Dieu soit déversée sur elle, et elle a pu amener la bénédiction. Et la victoire, ça a été que sa maman a été sauvée. Elle est partie quelques jours plus tard, mais elle est partie dans la paix de Dieu. Alors n'essayons pas de faire notre volonté avec nos propres forces sans la paix de Dieu, parce que c'est impossible. Mais pour faire la volonté de Dieu, pour combattre le bon combat de la foi, il faut que le Dieu de paix nous rende capables. Il faut prendre du temps dans la présence de Dieu, se recharger. C'est comme les panneaux solaires, mais notre cœur, c'est un panneau solaire avec le soleil de Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, vienne recharger nos batteries pour que nous puissions faire ensuite ce qu'il faut faire. Parce que il y a une guerre spirituelle. Parce que il y a des puissances. Parce qu'il y a des dominations, il y a des autorités ténébreuses. La Bible nous dit très bien qu'il n'y a pas de combat contre la chair et le sang. C'est pas un combat contre les hommes. Et les gens qui se battent contre les hommes, ils ont rien compris. Ils se battent pas au nom de Dieu parce que c'est pas du tout ce que la Bible dit. Mais la Bible nous dit qu'il y a par contre un monde spirituel. Il y a un combat spirituel. Et il y a des choses que nous devons faire. Il y a une guerre qui est déclarée. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Mais pour pouvoir remporter la guerre, pour pouvoir combattre, il faut être d'abord en paix. C'est ça l'équilibre de la foi. Et le déséquilibre, on en a vu des gens qui étaient déséquilibrés dans le combat. C'est les gens qui voient le diable partout. Vous en avez déjà vu ? Dès qu'il y a un problème qui se passe, « Ah, c'est l'ennemi qui m'attaque, je suis sous l'oppression démoniaque de ceci, de cela. » Et alors pour tout ce qui se passe, un caillou dans la rue sur lequel il trébuche, « C'est l'ennemi qui m'attaque !» Connaissez une dame qui avait passé du temps devant Dieu, toute la nuit elle avait prié. Est-ce que c'est bien de prier toute la nuit ? Yes. Oui ou non, ça dépend. Ça dépend dans quel état d'esprit on le fait, mais ça peut être bien, quand même, passer du temps devant Dieu. Le problème qui s'est passé, c'est qu'elle a prié toute la nuit, et là, elle a combattu contre les puissances invisibles, on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, mais elle a prié, en tout cas. Puis le matin, elle a pris sa voiture, tout de suite, juste après la prière. Je ne sais pas si c'était vers 5h, 6h du matin. Elle a pris sa voiture sans se reposer et puis elle a commencé à conduire et ce qui devait se passer s'est passé, c'est qu'elle s'est endormie. Elle s'est endormie, bon, heureusement c'était une route déserte, elle est partie juste sur le bord du bas-côté, il n'y avait personne en face, la voiture n'a pas bougé, mais elle s'est réveillée en sursaut et après quand elle a raconté ça, elle a dit « voilà, j'ai prié toute la nuit, le résultat c'est que l'ennemi était tellement pas content qu'il m'a attaqué sur le chemin du retour ». Ben non. Tu as failli te planter en voiture. Pourquoi ? Parce que tu as manqué de sagesse. C'est pas l'ennemi là, c'est toi. Vous êtes d'accord ? On a beau le faire une nuit de prière, être devant Dieu, faire quelque chose pour Dieu, si on manque de sagesse après, mais c'est pas la faute à l'ennemi, c'est pas la faute à Dieu, c'est notre faute à nous. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça d'être déséquilibré dans le combat. Si nous voulons remporter des victoires, si nous voulons que nous puissions obtenir la victoire de Dieu dans nos combats, il faut tout simplement être en paix. À force de chatouiller le lion, il risque de nous mordre. Eh oui, le lion c'est l'image du diable, je vous laisse avec cette réflexion. Mais Romains 16 nous dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Si on a le Dieu de paix qui est avec nous, alors il écrase sous ses pieds l'ennemi. Et c'est pas nous qui combattons, c'est pas nous qui nous débattons, c'est pas nous qui nous agitons, mais c'est le Dieu de paix qui fait tout cela pour nous. Le combat, la guerre que nous devons faire, c'est contre nous-mêmes, contre notre égoïsme, contre notre paresse, contre le fait qu'on laisse le péché dans notre vie sans le régler. Ça, c'est la guerre qu'on doit faire. Parce que si on fait cette guerre-là, après, le Dieu de paix, il habite en nous et il résout toutes choses. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Soyons des hommes et des femmes équilibrés dans notre foi. Vivons l'équilibre entre la joie et les pleurs et les larmes. vivant l'équilibre aussi entre la guerre et la paix. Et alors, nous verrons la gloire de Dieu sur notre vie. Parce que quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a cette foi qui plaît à Dieu, quand il prie, le Seigneur l'exauce. Comme cette dame, qui n'était pas capable, je reviens sur elle, pas capable de dire un mot, mais qui pleurait devant Dieu, mais Dieu l'a bénie. Dieu a fait un miracle dans la vie de son mari, qui était loin d'elle, qui était à l'hôpital. Il y avait des kilomètres qui la séparaient, mais pour Dieu, ça, c'est pas un problème. Parce qu'on a un Dieu qui est puissant. Amen. On ferme les yeux quelques instants. Et je voudrais vous encourager à placer votre foi dans notre Seigneur. Et à lui dire, Seigneur, je veux avoir cette foi équilibrée. Je veux être capable, Seigneur, d'avoir un cœur sensible. Un cœur qui pleure avec ceux qui pleurent. Un cœur qui se réjouit aussi avec ceux qui se réjouissent. Merci Seigneur pour toutes les fois où nous voyons autour de nous des gens qui sont exaucés, qui sont bénis, que tu sauves, que tu délivres. Oui, nous nous réjouissons Seigneur face à tout cela. Quand un pécheur se repent, nous avons aussi dans notre cœur une joie, Seigneur, incroyable. Parce que nous savons que c'est le plus beau miracle de toute l'humanité. Qu'une âme se donne à toi. Seigneur, merci pour toutes les fois où nous avons vu cela. Merci parce que tu nous permets aussi quand notre frère pleure. D'être à côté de lui pour l'encourager. Merci parce que tu nous donnes cette passion, cette compassion pour les âmes qui se perdent, qui sont au bord de l'enfer. Mais tu nous donnes toujours une solution pour être ses témoins, comme tu l'as fait pour cette dame, Seigneur. Tu lui as donné un verset qui a touché le cœur de sa maman. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui remportes la victoire. Nous avons des combats, nous avons des épreuves, nous avons des tentations. Mais le seul moyen d'être victorieux, c'est ta paix surnaturelle. Dans ce moment, Seigneur, que ta paix vienne nous inonder, vienne nous remplir, vienne nous envahir, Seigneur. Oui, nous ouvrons nos cœurs à ta présence. Nous ouvrons nos cœurs à ta, Seigneur, ton esprit. Parce que ton esprit, c'est un esprit de paix. Oh Seigneur, répands. De ton ciel de gloire, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, dans ces instants. Répands tes torrents d'amour et de paix dans nos cœurs. Oh, tu vois les besoins des uns et des autres. Mais Seigneur, tu es suffisant pour toutes ces choses. Nous te bénissons dans cette matinée et nous te louons, Seigneur. Amen.